بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue inshallah ta'ala contre la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et la semaine dernière, donc on avait parlé de l'avalanche des épreuves qu'avait touché le prophète عليه الصلاة والسلام. Donc ici on avait parlé de ce qui s'était passé à Taïf et donc de la patience qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam, et on était arrivé au retour à la Mecque, le retour du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est reparti de Taïf pour se diriger vers la Mecque, et on s'était arrêté la semaine dernière. Je vous avais dit qu'il avait rencontré un groupe de djinns, d'accord, qu'il y a eu cette scène ou cette situation plutôt qui est exposée clairement dans le Coran al-Karim, dans les sourates que je vais citer inshallah ta'ala. Donc il y a la sourate les djinns et la sourate que je vais citer directement tout de suite inshallah ta'ala. Donc au cours de son séjour en ce lieu, c'est un endroit qui était entre Taïf et la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala ici a envoyé un groupe de djinns, et ce groupe de djinns a entendu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. Ça c'est les djinns, l'ayat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette situation dans le Coran al-Karim, dans surat 46 versets 29 à 31. Donc je vous cite ici ces versets coraniques avant de vous citer les versets qui sont les plus connus je pense de la part de la plupart d'entre vous de sourate les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate 46 verset 29: rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa récitation, c'est-à-dire du Coran, donc ici ils dirent: écoutez attentivement. Les djinns ont dit: écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent: ô notre peuple. Là on parle des djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Il a créé les djinns et les hommes. Pourquoi? Pour l'ibada, pour l'adoration. وَالْعِبَادَ, qu'est-ce que c'est que l'ibada? Comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Mohamed, هذه هي العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى toutes les paroles et les actes apparents et cachés ici aimés et agréés par Allah سبحانه وتعالى font partie de l'عبادة, font partie de l'acte d'adoration, font partie des actes d'adoration plutôt. Comme dit شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, c'est un terme général, اسم جامع, concernant tout ce que Allah aime et agrée comme parole et action, apparente et cachée. Ça, c'est ça l'ibada. Et Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. Donc les djinns, écoutent, les djinns voient, les djinns parlent. Yarhamukallah. Wa hakada. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cette troupe de djinns, comme il a mentionné dans Sourate 46, verset 29-31. Et ici, je reprends simplement les paroles qu'il y a dans Sahibul Rahiq, donc le livre connu Rahiqul Makhtoum. Donc ici le nectar cacheté avec une traduction approximative. Et Anil, alhamdulillah, car elle reprend les paroles de Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala dans Zadul Ma'ad. Donc je vous reprends simplement les paroles qui sont citées concernant le passage ou les passages qu'on va citer au jour d'aujourd'hui, qui nous importent au jour d'aujourd'hui. Donc ceux qui veulent faire une révision, vous pouvez retourner, du moins pour ce passage en tout cas, et Anil à ce livre là qui est très connu. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ici cette situation: et puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple, c'est-à-dire les djinns, en avertisseurs. Ils dirent: ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa alayhi salam, confirmant ce qu'il a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et ça prouve que les djinns font da'wah. Les djinns, ils font da'wah aussi. Donc ce groupe de djinns a entendu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de la bouche du prophète alayhi salatu wa salam. Allah azza wa jal, il rapporte encore ici des versets coraniques concernant cette situation dans sourate les djinns. Et Allah azza wa jal dit, tout le monde connaît et a au moins entendu au moins une fois je pense ces versets coraniques: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Regardez, les djinns se sont écartés de quoi ? الشرك, الشرك بالله. Et ils disent quoi ? Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent. Donc les djinns dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Une lecture merveilleuse, Al-Qur'an Al-Karim, qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Et Ba'd al-Ulama, il dit, c'est comme si, et à Allah subhanahu wa ta'ala appartient la transcendance absolue, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala réconfortait le prophète alayhi salatu wassalam et lui disait, si un groupe d'êtres humains ne t'a pas écouté, certes il y a un groupe de djinns qui t'a écouté. S'il y a des gens qui ont refusé ton appel, il y a d'autres ici, créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui écoutent ton appel. Allah azza wa jal réconforte le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà qu'il se fait refouler par les gens de Taif, et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam réconforte le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà qu'Allah azza wa jal réconforte le prophète alayhi salatu wassalam avec cette situation. Donc les djinns qui écoutent, yani les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Certains savants, minhum ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ont dit que ici, ça prouvait que c'était la première fois que les djinns ont écouté les paroles d'Allah Azza wa Jal, mais d'après les versets coraniques et les récits prophétiques authentiques qu'il y a, ils ne l'ont pas écouté une seule fois. Ils n'ont pas écouté qu'une seule fois le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, plusieurs fois. Lakin, ces versets coraniques prouvent que c'était dans cette situation bien précise-là, de son retour de Taif, c'était la première fois que les djinns écoutaient les paroles d'Allah Azza wa Jal sorties de la bouche du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il ressort du contenu de ces versets et de celui des rapports faits au sujet du commentaire de cet événement que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne savait pas que ce groupe de djinns était venu l'écouter. Sahib al-Rahiq, donc l'auteur du livre qui dit cela, il ne le sut que lorsqu'Allah azza wa jalla lui fit savoir en lui révélant de tels versets. D'accord ? Donc au moment présent, il n'était pas au courant que ces djinns yani l'écouter, mais il fut au courant que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets coraniques. Cela, il ne le sut que lorsqu'Allah azza wa jalla le lui fait savoir en lui révélant de tels versets. On en déduit également que c'était la première fois que les djinns assistaient à la récitation. Le contenu des rapports implique que les djinns sont à plusieurs reprises revenus écouter, c'est-à-dire les paroles d'Allah azza wa jalla dans la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Et les versets descendus en rapport avec l'événement renfermaient des annonces de la réussite de l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Précisant qu'aucune des forces de l'univers ne pouvait s'opposer à une telle réussite. Et Allah Azza wa Jal rappelle, et il dit dans le Coran Al-Karim, et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah, voilà les versets coraniques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Comme il dit l'auteur, les versets descendus en rapport avec l'événement, en rapport avec l'événement. Et il cite les versets coraniques. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah, au prédicateur d'Allah, ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre. Ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident, comme ici Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Al-Qur'an Al-Karim. Et ici, dans, yani, après son retour ici à la Mecque, il s'est passé un événement où il y a unanimité. Et les preuves sont tirées du Coran et sont tirées de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a ijma' concernant cette situation très connue. Ici, ça nous sert de rappel. Je pense que la plupart le connaissent, cet événement très connu. C'est simplement Al-Isra wal-Mi'raj. D'accord ? Al-Isra wal-Mi'raj. On en a déjà parlé plusieurs fois. Lakin, à titre de rappel, incha'Allah ta'ala, comme yani, on est arrivé dans cette situation, ou plutôt dans ce passage concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on le recite, incha'Allah ta'ala. Et je vais citer les paroles d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala. Pourquoi ? Pour résumer un peu, car il cite ce qui s'est passé et ces événements. Après, je vous reciterai, si vous voulez, dans les détails, les hadiths rapportés par Muslim et Bukhari, inshallah ta'ala, et Ahmad et Abu Daoud, concernant le résumé d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans Zadul Ma'ad. Ala kulli hal, il faut savoir que cet événement s'est passé avec divergence. Je dis bien avec divergence. À la Koulihal, on dira une dizaine d'années. Car il y a une divergence sur ce sujet-là. Et entre guillemets, ça nous importe peu, à partir du moment où il y a une grande divergence sur ce sujet-là, de savoir la date exacte. Pourquoi ? C'est un peu la même chose que ce qui concerne la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez très bien que les gens, ou beaucoup de gens, plutôt parmi notre communauté, avec le plus grand des regrets, ont utilisé la biographie, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam comme événement qui fait partie des innovations. D'accord? C'est quoi cet événement-là? Yani, ils ont prétendu qu'il fallait fêter, célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'on n'a pas le jour exact, yani, avec plutôt on va dire la date exacte plutôt. Le jour c'est un lundi. Yani, la date exacte de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. De même, Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra c'est quoi? Le voyage nocturne. Al-Mi'raj, donc c'est connu, c'est l'ascension. Donc Al-Isra wal Mi'raj, cet événement-là, il s'est passé, on va dire, une dizaine d'années. D'accord, une dizaine d'années après, bien sûr, la prophétie. On n'est toujours pas dans l'immigration ici. Hein. On n'a toujours pas parlé de l'immigration de l'Hijra. D'accord, min Mecca ila al-Madina. Donc ici, après la prophétie. Et concernant la date exacte, on n'en a aucune preuve. On n'en a aucune preuve. Alhamdulillah. Et en nous disant Alhamdulillah. Pourquoi? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi cet événement pour yani, faire des prières particulières pendant la nuit, ou alors yani, embellir les mosquées, ou certains se réunissent pour lire la biographie du prophète, ou je ne sais quoi encore. Tout ceci fait partie des quoi? Des innovations. Et il n'y a aucune preuve concernant yani, ces pratiques, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc ici, tout ce qui n'est pas apporté par le prophète عليه الصلاة والسلام dans cette religion est rejeté. D'accord? Nous, on n'est pas mieux que le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal a légiféré des choses au prophète, alayhi salatu wassalam, des actes d'adoration, des pratiques religieuses. On doit s'en tenir à ces actes d'adoration et ne rien rajouter, incha'Allah ta'ala. Et selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, d'accord, il résume des paroles qui sont tirées des hadiths rapportés par l'imam, particulièrement al-Bukhari, l'imam muslim. Et on retrouve des parties de ce qu'a cité Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans des récits rapportés par l'imam Ahmed dans son Musnad. Et on verra, je rajouterai ici un ou deux hadiths rapportés par Ahmed et Abu Daoud. Et concernant Ahmed, c'est toujours dans son Musnad. Selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam fit le voyage nocturne, corps et âme. Car il y a une divergence entre savants. Certains savants, ils ont dit que... On dit, ils ont apporté des preuves et ils ont dit, ils ont fait leur ijtihad. Et ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a fait... Yani, le voyage nocturne que par l'âme. D'accord? Ce voyage a été fait que par l'âme. D'accord? On va dire c'est que l'âme qui a voyagé. Et là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et d'autres, وَهَذَا قَوْلُ الرَّاجِحُ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ أَحْكَمُ a dit ici que le prophète alayhi salam a fait ce voyage nocturne ici, corps et âme, de la sainte mosquée. Et là, on parle de Al-Isra. Le voyage nocturne, c'est de la sainte mosquée, c'est-à-dire de Baytul Haram, ici Mecca, donc à quoi? Baytul Maqdis, d'accord, Al-Quds, donc à Jérusalem, donc ici la mosquée à Jérusalem, d'accord, Al-Quds, et donc monté sur Al-Buraq, comme il aurait été dans le hadith rapporté par Muslim. Je reprendrai des parties du hadith muslim, rapporté par Muslim si vous voulez. Donc c'est ça Al-Isra, c'est le voyage nocturne. Le voyage nocturne, c'est Al-Isra. Je répète ici parce qu'il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans. Ils ont lu la biographie du prophète alayhi salam. Quand tu dis c'est quoi l'Isra et c'est quoi le Mi'raj, ils ne savent pas. On a besoin du rappel et on a besoin de répéter les choses. Al-Isra, ça doit être gravé dans nos têtes à vie. Al-Isra, c'est le voyage nocturne. D'accord? Donc, de la mosquée sacrée, de la Mecque, donc ici à la mosquée sacrée à Jérusalem, Al-Quds. Donc, et Al-Mi'raj, c'est l'ascension. C'est l'ascension. Et la Sama, d'accord? Dans les cieux. Donc, ici, on va parler de Al-Isra et ensuite de Al-Mi'raj. Al-Isra, ce voyage nocturne, a été accompli ce voyage-là par le prophète alayhi salam, monté sur Al-Buraq. Et on va parler de ce que c'est qu'Al-Buraq. Monté sur Al-Buraq et en compagnie de Jibril alayhi salam. Il descendu à Jérusalem, dirigea la prière des prophètes. D'accord, dirigea la prière des prophètes, comme il aura été dans un hadith rapporté par Ahmed dans son Musnad. Et c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam arrivé à Jérusalem, Al-Quds. Donc ici, Baytul Maqdis, ici le prophète alayhi salatu wassalam, il a dirigé la prière et derrière lui l'ensemble des prophètes et des messagers. Et ça prouve, et c'est ce qu'ont dit les savants, il y a des versets coraniques qui le prouvent de toute manière. On a déjà vu ces versets coraniques dans les chapitres de Aqidah. Lakin, ça c'est parmi les preuves qui prouvent ici que le prophète alayhi salatu wassalam est le meilleur des prophètes et envoyés. Parce que c'est qui a dirigé la prophète, qui a dirigé la prière? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et derrière lui, il y avait qui? Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Youssef alayhi salam. Ala kulli hal, comme on dit les savants, l'ensemble des prophètes et des messagers, ils étaient derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça prouve encore que quoi? Que Baytul Maqdis a une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une mosquée sacrée. Et c'est une mosquée ici que nous, on doit donner. Yani, on doit avoir le souci quant à cette mosquée. Et on doit toujours avoir cette envie aussi de prier dans cette mosquée. Car cette mosquée fait partie des mosquées et des endroits sacrés. Donc le prophète, ça a été un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il a prié dans cette mosquée et il a été imam et présidé la prière pour l'ensemble des prophètes et des messagers. Voilà que le prophète, dirigeait la prière des prophètes. Donc je vous cite ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zadul Ma'ad et autres, vous pouvez retrouver ses paroles. Alors qu'Al-Buraq restait attaché à la porte de la mosquée. Ensuite, on le fit monter la nuit même. On le fit monter et c'est ce qu'on appelle Al-Mi'raj, l'ascension. Donc on le fit monter ici, la nuit même, de Jérusalem au ciel le plus proche. Donc il est monté dans les cieux, au ciel le plus proche avant tout. Au ciel le plus proche. Arrivé au premier ciel, donc essayez de retenir ici, yani, le nom de ces prophètes ici, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, arrivé au ciel, yani, au premier ciel, Jibril demanda qu'on lui ouvrit la porte. Celle-ci fut ouverte. Il vit qui d'abord ? Adam alayhi salam. C'est connu ça, on a déjà parlé plusieurs fois. Adam alayhi salam. Donc il vit Adam alayhi salam au premier ciel. Et donc le père des hommes, alors il le salua et celui-ci lui souhaita la bienvenue. Il lui souhaita la bienvenue, il lui dit marhaban. Il lui dit marhaban. D'accord ? Et les savants ont dit que ça c'est la preuve que ce n'est pas une innovation. Le fait de dire marhaban à une personne. Parce que certaines personnes disent, quand ils entendent d'autres termes employés pour passer le salut, ici, dès qu'ils entendent un autre terme que assalamu alaykum, ou assalamu alaykum wa rahmatullah, ou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou fi riwaya sahiha wa maghfiratu, ils disent que c'est une innovation. Et ça, c'est la preuve que de dire marhaban, ce n'est pas une innovation. Mais al-awla, ce qui est en prioritaire, bien sûr, c'est d'abord de passer le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, hada yakfi. Et tu as droit de dire ensuite marhaban, ahlan wa sahlan. Ça c'est autorisé. Et ici ils ont répondu marhaban, donc avec une traduction approximative, bienvenue. Naam. Donc ensuite il le salua et celui-ci lui souhaita la bienvenue, lui rendit le salut et reconnut sa prophétie. Allah montra ensuite à son messager l'esprit des martyrs à sa droite et celui des méchants à sa gauche, dans une version authentique. Ensuite on le fit monter au deuxième ciel. D'accord, il est monté au deuxième ciel. Jibril alayhi salam demanda qu'on lui ouvrit la porte. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam trouva au deuxième ciel. Il trouva qui au deuxième ciel? Qui? Yahya alayhi salam. D'accord, Yahya ibn Zakaria et Isa ibn Maryam. D'accord, il les trouva les deux. Retenez bien, au deuxième ciel, Isa alayhi salam. Au deuxième ciel. Certains vont dire, et certains disent, comment ça se fait qu'Isa est qu'au deuxième ciel? Et d'autres l'ont devancé. Alors que Isa alayhi salam fait partie des cinq doués de détermination, ulul azm. D'accord, comme Allah azza wa jalla cité dans le Coran al-Karim. On va voir ici qu'est-ce qu'on dit les savants. D'accord, il trouva Yahya ibn Zakaria, d'accord, alayhi salam, et il trouva aussi Isa ibn Maryam. Adam au premier ciel, ici au deuxième ciel, Yahya et Isa ibn Maryam alayhi salam. Et il les rencontra et les salua de la même façon. Ceux-ci lui rendirent le salut, lui souhaitèrent la bienvenue aussi, disent marhaban, et reconnurent sa prophétie. Ensuite, on le fit monter au troisième ciel, où il trouva Youssouf alayhi salam. Adam, Yahya et Isa, ensuite Youssouf alayhi salam. Donc il trouva Youssouf alayhi salam, le salua, celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue, reconnut sa prophétie. De même, il poursuit le prophète alayhi salatu wassalam, accompagné de Jibril alayhi salam. Donc ensuite, il poursuit. Et on le fit monter au quatrième ciel où il trouva Idris alayhi salam. Quatrième ciel, après Youssouf, c'était Idris alayhi salam. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. De même. Et yarhamukallah. Ensuite, on le fit monter au cinquième ciel où il trouva Harun ibn Imran alayhi salam. Harun, au cinquième ciel. Et le salua. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. Ensuite, on le fit monter au sixième ciel où il rencontra Moussa ibn Imran alayhi salam et le salua. Au sixième ciel, il y avait Moussa alayhi salam. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. Lorsqu'il eut dépassé Moussa, celui-ci pleura. Quand il a dépassé Moussa alayhi salam, la version est authentique ici, hein, il a vu Moussa alayhi salam en train de pleurer. Et Moussa alayhi salam lui demanda Afwan, le prophète lui demanda, pourquoi pleures-tu? Moussa répondit, je pleure parce qu'on a après moi. Moussa dit je pleure parce qu'on a après moi envoyé un jeûne. Et les savants ils ont dit un jeûne, ce n'est pas pour rabaisser le prophète alayhi salatu wasalam, abadan. Ce n'est pas pour rabaisser, pour dire qu'il ne vaut rien. Hasha wa kalla. Il dit un jeûne, d'accord, dont le peuple comportera plus que le mien, c'est-à-dire en nombre. Donc Moussa alayhi salam a pleuré, comportera plus que le mien en nombre, un nombre d'entrants au paradis, d'accord. Ensuite on le fit monter au septième ciel où il rencontra Ibrahim alayhi salam et le salua. Celui-ci lui rendit le salut et lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. Ensuite on le fit monter vers, bon, certains disent le jujubier céleste, d'autres l'appellent le lotus de la limite, ça reste des traductions approximatives. Ala kulli hal, en arabe c'est Daratul Muntaha, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran al-Karim, d'accord, soit le jujubier céleste ou bien le lotus de la limite al-Muntaha, d'accord. Et après vers Baytul Ma'mour, donc il fit monter vers Sidratul Muntaha et ensuite vers Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour, et on va en parler inshallah ta'ala rapidement de Baytul Ma'mour. Idha kana al-Isra يعني من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, d'accord, et wal mi'raj min al masjid al aqsa ila as-sama' as-sabi'a, d'accord. Donc on a dit que al-Isra c'était un voyage nocturne de la mosquée sacrée à la mosquée de Al-Aqsa à Jérusalem, et le Mi'raj c'est de la mosquée d'Al-Aqsa, d'accord, donc c'est-à-dire l'ascension ici au ciel, d'accord, ou plutôt aux cieux. Donc ici pourquoi certains savants ont dit, si quelqu'un demande et interroge, il dit comment ça se fait que Isa alayhi salam ici fait partie des 5 doués de détermination, il se retrouve au deuxième ciel, il se retrouve au deuxième ciel, alors que plus loin ici on trouve simplement par exemple au cinquième ciel, on trouve au cinquième ciel qui? Harun alayhi salam. Disent comment ça Harun au cinquième ciel et Isa au deuxième ciel, alors que Isa alayhi salam fait partie des 5 doués de détermination. Et les savants ont simplement dit que ça c'est une hikmah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que certains savants ont dit, ils ont apporté ces paroles là en disant que une des sagesses c'est que Isa alayhi salam, vous savez qu'il va redescendre sur terre ici dans les derniers instants de la fin du monde, d'accord. Et c'est Isa alayhi salam va redescendre sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas élevé jusqu'au dernier cieux, tout simplement pour rappeler que Isa alayhi salam doit encore redescendre sur terre, d'accord. Donc le laisser où il le laisse, comme si Allah subhanahu wa ta'ala le laissait, ce n'est pas une parole, c'est la parole des savants, hein, comme si Allah subhanahu wa ta'ala le laissait au deuxième ciel parce qu'il doit encore redescendre, et pour qu'il reste rapproché ou approché ou proche plutôt du ciel qui ou de la terre, d'accord. Donc ici, hikmatullah ala kulli hal. Donc ça c'est les savants qui disent, lakin ala kulli hal, on n'a pas droit de se dire mais pourquoi Allah a fait ceci. S'il n'y a pas de preuve, on s'arrête là. Mais je vous cite simplement certaines paroles et années de savants, d'accord. Donc ici, ensuite on le fit monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on le fit monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc duquel il s'approcha alors au point de n'en être séparé que par la longueur de 2 arcs au moins. Allah lui révéla ce qui lui révéla et lui imposa 50 prières. D'accord. Donc là, ici, c'est simplement pour que vous ayez bien l'histoire dans la tête. Ensuite, on reprend, si vous voulez, si on a le temps, dans les détails, tous les hadiths. Donc ici, ensuite, de Sidratul Muntaha, Baytul Ma'mour, de Baytul Ma'mour, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc il est jusqu'à ce qu'il soit arrivé près ou proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a parlé directement au prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, de vive voix, et il lui a ordonné 50 prières pour sa communauté. 50 prières, d'accord. Et vous connaissez ce hadith, hein, et ce récit prophétique. Et s'en retournant, le prophète alayhi salatu wassalam passa devant Moussa alayhi salam. Donc après qu'Allah azzawajal lui a ordonné 50 prières, d'accord, qui lui demanda, que t'as-t-il ordonné de faire? Il répondit, 50 prières. Moussa lui dit, qu'est-ce qui t'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, Allah m'a ordonné 50 prières. Moussa alayhi salam, il lui dit, ton peuple ne supportera pas cela, retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui de réduire cela pour ton peuple. Il dit, ton peuple ne supportera pas les 50 prières. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se retourna vers Jibril alayhi salam comme pour lui demander son avis. Celui-ci fit un signe voulant dire, oui si tu veux, comme cite Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala, et ensuite il le fit monter jusqu'au Tout-Puissant qui était à sa place. Selon la formulation d'Al-Bukhari, à certains égards, Allah défalqua, ou alors Allah diminua, a 10 prières, d'accord, les 50 prières. Donc quand il retourna vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah azza wa jalla a diminué, donc ça c'est le récit d'Ibn al-Qayyim, il passe de 50 à 10, a diminué à 10 prières. A diminué à 10 prières. Et le prophète alayhi salatu wa salam redescendit, passa devant Moussa alayhi salam et l'informa. Donc Allah azza wa jalla a réduit le fait qu'il était imposé à la communauté du prophète 50 prières, donc il a réduit ces 50 prières à 10 prières simplement. 50 prières on les aurait fait. Hadith wa la haraj. Déjà 5 prières, Allahu musta'an. Et donc ici, à ce moment-là, celui-ci dit, retourne à ton Seigneur, c'est-à-dire Moussa, et demande-lui de te réduire encore. Dis prière, lui dit, demande-lui de te réduire encore. Ainsi le messager d'Allah ne cessa de faire la navette entre Moussa et Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il ne restât que 5 prières. D'accord ? Et Moussa lui conseilla de retourner demander une réduction, mais il dit, j'ai honte de mon Seigneur. Moussa lui dit, va encore demander une réduction. Et le prophète, il n'a pas osé retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me contente des 5. Lorsqu'il se fut éloigné, quelqu'un appela et dit, j'ai imposé mon obligation et soulagé mes serviteurs. D'accord ? Et donc, ça, c'est ce qui est relaté par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et celui-ci, à deux fois de suite, a été vu par Muhammad alayhi salatu wassalam. Celui-ci, c'est qui ? C'est Jibril alayhi salam. On avait vu déjà que Jibril alayhi salam est apparu une première fois sous sa vraie apparence au prophète alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, Jibril alayhi salam, comme Allah azza wa jalla a mentionné dans le Coran al-Karim, il a vu le prophète alayhi salam, il a vu Jibril alayhi salam une deuxième fois. Donc celui-ci, c'est-à-dire Jibril, a deux fois de suite a été vu par Muhammad alayhi salatu wassalam sous sa forme véritable, une fois sur terre et une fois au jujubier céleste, Sidratul Muntaha, ou alors ici le lotus de la limite. Mais Allah sait mieux que quiconque ce qu'il en est exactement, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa sahibu al-Rahiq. D'accord ? Donc le nectar cacheté, l'auteur du nectar cacheté. D'accord ? Ici, si vous voulez, on reprend certains hadiths rapidement. Si vous voulez plus de détails. Il y en a les preuves de ce qui a été apporté. Bon, les hadiths sont très longs, c'était pour ça que je ne voulais pas trop reprendre. À la kulli hal, rapidement, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, le hadith est rapporté par l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit al-buraq, al-buraq. Donc on a parlé de al-buraq. Et le hadith est rapporté par muslim. Et il dit, c'est une monture blanche plus grande qu'un âne. Plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. Plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, me fut amené. Je la montai et fus transporté à Jérusalem. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes. Je pénétrai dans la mosquée où je priais 2 rak'at. À ma sortie, Jibril alayhi salam m'offrit 2 récipients. À ma sortie, voilà les paroles qui sont rajoutées dans le hadith de Muslim et qui ne sont pas mentionnées ici. Ici, à ma sortie, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Jibril alayhi salam m'offrit 2 récipients. Ensuite, il dit, l'un contenait du vin et l'autre contenait du lait. Je choisis le lait et Jibril me déclara alors que j'avais élu la voie primordiale, ou al-fitra. Porté par lui, je m'élevais jusqu'aux régions célestes. Jibril demanda la permission d'y accéder. D'accord ? Il a akhir al-hadith. Et donc ensuite, c'est le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Donc ici, les récits qu'on a en plus, c'est qu'il a été proposé 2 récipients au prophète alayhi salatu wassalam, un de lait et un de vin. Et dans une version authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il lui a été dit, si tu avais bu le récipient de vin, ta communauté se serait égarée. Ta communauté se serait égarée. Et là, on a la description de Al-Buraq. La description d'Al-Buraq. Et d'après l'imam Malik, d'accord, d'après Malik, Ibn Sa'sa'a, radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est rapporté par l'imam muslim aussi, pendant que je me trouvais auprès de la maison sacrée Al-Ka'ba, dans un état intermédiaire entre le réveil et le sommeil, j'entendis quelqu'un appeler, d'accord, l'homme se trouvant entre les deux autres. Il y avait, selon les commentaires, 2 hommes à côté du prophète alayhi salatu wassalam. J'y répondis. On m'emmena et m'offrit ensuite un bassin d'or rempli de l'eau de Zemzem. Voilà encore un autre renseignement qui n'est pas cité ici dans les paroles d'Ibn al-Qayyim. Donc ici dans le hadith rapporté par Muslim, on m'emmena et m'offrit ensuite un bassin d'or rempli de l'eau de Zemzem. Rempli de l'eau de Zemzem. Donc ici, ça rappelle encore les bienfaits D'accord? Et la faveur qui est donnée à celui qui boit l'eau de Zemzem, celui qui a l'opportunité de boire l'eau de Zemzem, qu'il en boive au maximum, inshallah ta'ala. Et on me fendit la poitrine d'ici jusque-là. Le prophète alayhi salam, il a fait signe avec sa main. Donc on lui a fendu sa poitrine. D'accord? Est-ce que le prophète, on lui avait déjà fendu la poitrine? Une première fois, on avait vu. D'accord? Lors de sa jeunesse, on avait déjà expliqué la situation. Et une deuxième fois dans le hadith rapporté par Muslim. Donc les savants, ils ont dit, c'est une deuxième fois que sa poitrine a été fendue. Donc ici, on est arrivé à la deuxième fente de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, il dit, on me fendit la poitrine d'ici jusque-là. Un autre transmetteur, Qatada, Sankeri. Et qu'a-t-il entendu par d'ici jusque-là, jusqu'au bas-ventre? Répliqua Anas. On m'extraira le cœur, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ou plutôt, on m'a extrait le cœur, dit le prophète. Et après l'avoir lavé avec l'eau de Zemzem, on me le remit à sa place en le remplissant de la foi et de al-hikmah, la sagesse. D'accord? La foi et al-hikmah. Et on en a parlé de al-hikmah plusieurs fois. D'accord? Donc, on m'a rempli mon cœur de la foi et de al-hikmah. Puis me fit amener al-buraq, une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, sur laquelle on me fit monter. Puis je m'en allais avec Jibril alayhi salam jusqu'à atteindre le ciel le plus proche, où il demanda qu'on nous ouvre. Qui est-ce? Il a akhir al-hadith. Donc ensuite le hadith, ici je ne reprendrai pas les paroles qu'on a citées, c'est-à-dire où le prophète alayhi salam a rencontré différents prophètes, ici dans les différents cieux. D'accord? Donc ici on a aussi un hadith rapporté par Muslim tout le temps, hein, toujours, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu arda. Le hadith est rapporté par Muslim. D'accord? Ici j'ai préféré utiliser cette technique pour que ça soit clair au début de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite on rentre plus dans les détails petit à petit, inshallah, pour que ça soit retenu. D'après Ibn Abbas rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam évoquant son voyage nocturne. Le voyage nocturne c'est quoi? Al-Isra. Son voyage nocturne dit Moussa alayhi salam. D'accord? Donc quand on parle de voyage nocturne, c'est Al-Isra ou Al-Mi'raj, bien sûr. Donc l'ascension aussi. Donc ici, il dit, c'est-à-dire dans les hadiths comme ça, hein, il dit, Moussa alayhi salam était brun. Donc là, on voit que quoi, d'après ces hadiths, que vous pouvez retrouver dans Sahih Muslim, ici, le prophète alayhi salam a vu Moussa, et l'a tellement bien vu, était tellement proche de lui qu'il les a décrits. Il a décrit Moussa alayhi salam, il a décrit Ibrahim alayhi salam, et il a vu Al-Masih al-Dajjal. D'accord, il a vu même Al-Masih al-Dajjal lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj, ou bien on va dire Al-Mi'raj, ou on peut dire Al-Isra ou Al-Mi'raj, d'accord. Le voyage nocturne et l'ascension, car ça s'est passé dans la même nuit, d'accord. Donc il dit, Moussa alayhi salam était brun et de haute taille. Il était brun et de haute taille. On en dirait un homme de la tribu de Shanoua. Quant à Isa alayhi salam, il était d'un corps charnu et de taille moyenne. Ça c'est Isa alayhi salam. Le prophète mentionna aussi Malik, le gardien de l'enfer, et Al-Masih al-Dajjal. Donc ça, les savants ont tiré de ce hadith, et d'autres hadiths aussi de toute façon, hein, authentiques, que le prophète alayhi salatu wassalam a vu le Masih al-Dajjal lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj. D'accord? Et dans un autre hadith de Muslim selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit... il était, comme le prophète alayhi salam, passé par la vallée d'Al-Azraq. Il demanda, quelle est cette vallée? On lui répondit, c'est la vallée d'Al-Azraq. Le prophète alayhi salam dit alors, il me semble voir Moussa alayhi salam descendre du haut du plissement en faisant la talbiya à haute voix. Ensuite, ayant passé par le plissement de Harsha, il demanda, quel est ce plissement? C'est le plissement de Harsha, lui répondit-on. Le prophète alayhi salam dit alors, il me semble voir Younous alayhi salam et vêtu d'une tunique de laine et enfourchant une grosse chamelle rousse dans la bride, dont la bride est en fibre, en train de faire la talbiya. Donc ça c'est concernant certaines descriptions aussi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith toujours rapporté par Muslim selon Abi Huraira, il dit, lors de mon voyage nocturne, donc lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj, je rencontrai Moussa alayhi salam. C'était un homme fébrile, aux cheveux ni très lisses ni très hérissés, dont on dirait un homme yani de la tribu de Shanoua. Je rencontrais aussi Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, c'était un homme de taille moyenne, rougeau, d'accord, de tel homme qui vient de sortir du bain, d'accord, avec les joues un peu rouges, yani tel homme qui vient sortir du bain. Je vis également Ibrahim alayhi salam. De ses descendants, c'est moi qui lui ressemble le plus. Le prophète alayhi salam, il a vu Ibrahim, il a dit, c'est moi qui lui ressemble le plus, donc à Ibrahim alayhi salam. Concernant sa descendance, il dit, de ses descendants, c'est moi qui lui ressemble le plus. alayhi salatu wasalam, et ce sont les deux amis Khalilayn, les deux amis intimes d'Allah, yani Ibrahim alayhi salam et le prophète alayhi salatu wasalam. Ensuite, on m'offrit deux récipients, l'un contenait du vin et l'autre contenait du lait. Bois celui des deux que tu voudras. Il lui a été dit au prophète alayhi salatu wasalam, me dit-on, je pris le lait et le but, et on lui a dit, tu as élu la voie primordiale ou al-fitra, yani. Et ajouta-t-il, si tu avais pris le vin, ta communauté aurait été égarée. D'accord ? Ça, c'est le hadith rapporté par Muslim concernant ici la situation. D'accord ? De Al-Isra wa Al-Mi'raj. Et toujours rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, une nuit, je me suis vu en songe auprès de la Kaaba. D'accord ? Où j'ai vu un homme brun, le plus beau brun que vous puissiez voir. Un homme brun, le plus beau brun que vous puissiez voir. Il avait les plus beaux cheveux descendant derrière ses oreilles. Descendant derrière ses oreilles. Il dégouttait encore d'eau comme s'il venait de les peigner. Il était appuyé sur deux hommes, ou suivant une variante, soulevé sur les épaules de deux hommes et faisant ainsi le tawaf, les tournées rituelles autour de la maison sacrée. Je demandais qui était-il et on me répondit, c'est Isa ibn Maryam. Je vis ensuite un homme yani aux cheveux crépus, il était borgne de l'œil droit et celui-ci ressemblait à un grain de raisin saillant. Je demandais qui était-il et on me répondit, c'est Al-Masih Ad-Dajjal. Donc ici on parle de qui ? De l'Antéchrist. D'accord ? De l'Antéchrist. Donc ici ça c'est quelques yani, hadiths qui complètent un peu les paroles qu'on a apportées ici. Donc il y a un hadith de Aïcha qui est très long aussi, je ne le citerai pas. Yani, donc ça, on a déjà cité ces paroles-là. Da'am. Et le reste, inshallah ta'ala, je le citerai dans le hadith rapporté par Abu Daoud, on le verra par la suite. D'accord. Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah ta'ala, il note, le hadith est authentique aussi, hein. Le lendemain matin, donc après cet événement, al-Isra wa al-Mi'raj, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, informa son peuple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré comme grand signe. D'accord. Il informa son peuple. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, le hadith est rapporté par Ahmed et Abu Daoud et Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Le prophète alayhi salam, lors de l'Isra wa al-Mi'raj, vous connaissez le hadith, vous l'avez déjà entendu, il a vu aussi des gens qui se griffaient le visage. Des gens qui se griffaient le visage. Ça, c'était toujours dans la nuit de l'Isra wa al-Mi'raj. Ils se griffaient le visage. D'accord ? Avec quoi ? Des ongles en cuivre. D'accord ? Et ici, le prophète alayhi salam, il lui a été informé que c'était qui ? C'était les gens qui calomniaient, qui portaient atteinte à l'honneur des autres. Ceux qui quoi ? Qui touchaient à l'honneur des autres. Et qui passaient leur temps à quoi ? À calomnier, médire, etc. Jusqu'à porter atteinte à leur réputation, wal'iyadu billah, à leur honneur, al-ird, wal'iyadu billah. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit et a mentionné dans un hadith rapporté par Muslim, que yani, l'honneur du musulman, yani, comme son sang, d'accord, comme ses biens, sont sacrés. D'accord. Et ça, c'était des gens que le prophète a vus lui-même, corps et âme, la nuit de l'Isra ou le Mi'raj, ces gens-là qui se griffaient le visage, wal'iyadu billah. Et s'il est mentionné dans le hadith authentique, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pour nous mettre en garde sur le fait de quoi ? Toucher à l'honneur des croyants. Et Allah Azza wa Jalla rappelle dans le Coran al-Karim, inna alladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. D'accord, comme on l'a vu et on l'a répété souvent, ceux qui portent atteinte aux croyants et aux croyantes sans qu'ils n'aient rien fait ou sans qu'ils ne les méritaient, ils se sont chargés buhtanan wa ithman mubina, d'accord, d'une calomnie et d'un grave péché, avec une traduction approximative. Donc ici ça nous rappelle qu'il faut retenir et tenir sa langue et ne pas tomber dans cette nouvelle mode, le fait de toucher à l'honneur wal'iyadu billah de nos frères et sœurs. Quand tu entends une personne qui parle de ton frère, n'importe quelle personne, et cette parole peut t'amener yani, cette personne à toucher à son honneur wal'iyadu billah, écarte-toi ya akhi al-karim, écarte-toi. La nuit de l'Isra wal Mi'raj, rappelle-toi toujours de ce hadith authentique, le prophète alayhi salam a vu ces groupes de personnes, ces personnes-là qui se griffent le visage wal'iyadu billah, ici avec yani, des ongles en cuivre ou en fer. Mais dans le hadith c'est en cuivre, hein. D'accord. Et ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, pour arriver vers la fin, il rappelle Il rappelle ce qui s'est passé le lendemain de cet événement-là. Et il dit, le lendemain matin, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, informa son peuple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré comme grand signe. Alors ceux-ci le démentirent formellement, le maltraitèrent avec acharnement. Ils lui demandèrent de leur décrire Jérusalem. Donc ils lui ont dit, si toi t'as été là-bas. Donc ils ont voulu le défier. D'accord ? Et ils n'y croyaient pas. Ils ont dit, bah décris-nous. Il y a Jérusalem. Et c'était les personnes